et Prodilectis, on les annula purement et simplement. Mais en 1228, après la mort du saint, Ugolin, devenu pape, revint à la charge. Il obtint de Claire cette réponse magnifique. « Seigneur pape, absolvez-moi de mes péchés, mais laissez-moi suivre la voie de Jésus-Christ. » Et le pape s'inclina. 6 siècles plus tard, en 1893, quand on exhuma le corps de Sainte-Claire pour transférer ses restes dans une châsse de cristal, on trouva dans les plis de sa robe la règle des Clarisses. Un des articles, le 16e, était la lettre de François. Le vieil Honorius, chassé de Rome cette fois par la canicule, s'était installé avec sa cour à Orvieto. Orvieto, ville sous l'obédience papale, facile à défendre sur son rocher, était l'un des endroits où les papes fuyaient volontiers les coups de sang de la plèbe romaine. Ville de fantômes aussi, car si les Étrusques y avaient creusé des puits et élevé des remparts, leur présence inquiétante y était toujours sensible dans la ville des morts que l'on continue à découvrir encore de nos jours au bas de la muraille rocheuse. Quittant Venise, François prit donc le chemin d'Orvieto en passant par Vérone. À Bologne, il s'arrêta pour visiter la maison des frères fondée par Bernard de Quintavalle. Mais là, ô surprise, au lieu du modeste couvent, il vit une magnifique demeure où ses franciscains s'étaient installés. Furieux de cet affront à Dame Pauvreté, il les mit dehors tous, jusqu'à frère Léon qui se trouvait là, malade, et leur ordonna d'aller loger ailleurs. Son autorité restait entière, mais il lui avait fallu pour agir un sursaut d'énergie. En réalité, il était à bout de force. En allant à Orvieto, il fit un rêve qui l'éclaira sur la conduite à suivre désormais. Une poule noire essayait en vain de rassembler ses petits. L'indication lui parut nette. La poule noire, c'était lui, incapable de regrouper ses enfants dispersés. Le jour venu, il se présenta au pape et lui demanda que l'Église prît sa fraternité sous son aile. Un cardinal muni de tous les pouvoirs nécessaires deviendrait le protecteur des frères mineurs, et il proposa celui en qui il avait une confiance totale, Ugolin. Sans hésiter, Honorius accéda à cette requête si parfaitement conforme aux vues de Rome, et cette initiative passera dans le droit commun de l'Église. On peut trouver surprenante la démarche de François. Sans doute faut-il tenir compte de son état de santé qui était mauvais et qui lui faisait craindre de ne pouvoir continuer seul à conduire ses frères. Le foie et l'estomac avaient souffert du climat oriental, et plus pénible encore. Blessé par le soleil de Syrie et d'Égypte, ses yeux se trouvaient gravement atteints d'un mal progressif et à cette époque incurable, une conjonctivite granuleuse. Heureux de voir François dans ses dispositions exemplaires d'obéissance au Saint-Siège, Honorius approuva sans difficulté la création du tiers-ordre qui étendait le pouvoir de l'Église. Accordé aussi au fondateur la permission d'en rédiger la règle. Battant le fer pendant qu'il était chaud, le pape décida, sur les conseils d'Ugolin, que les postulants franciscains feraient une année de noviciat. Et François s'inclina. Une fois admis le principe de l'obéissance totale, le reste viendrait tout seul, avec les couvents qu'il faudrait bâtir. Le temps de la douce anarchie évangélique était bien révolu. La bulle Cum Secundum fut promulguée le 22 septembre. François travaillait sur place à Orvieto à la rédaction de sa règle. Les conseils pleuvaient doucement de tous côtés dans cette curie soucieuse de sauvegarder les traditions monastiques. Ugolin, surtout, se montrait expert en formules ingénieuses. François écoutait et n'en faisait qu'à sa tête. Ou essayait. Au physique, ce n'était plus le même François qui revint à la portioncule. Mais le rayonnement de l'âme n'en paraissait que plus sensible. La nouvelle de son retour vola à travers le pays et rendit la joie aux milliers de frères désorientés par son absence. Il était là, de nouveau parmi eux, et ce que saint Benoît appelle la mortification de la vie en commun cessait d'un coup. Plus de discussion, plus de brouille. Pareil à un magicien, cet homme qui